Cours de philosophie politique par le père Philippe à Saint-Joseph le 22 janvier 1987.
Parce que c'est mettre la finalité de la famille dans tout. de la famille, c'est l'amour des conjoints. Ah, vous voyez, je dis un progrès parce qu'on met en beaucoup plus lumière au plan philosophique. Et il y aura la répercussion au point de vue théologique. On mettra beaucoup plus en lumière que la famille repose sur l'amour des conjoints. Que c'est l'amour des conjoints qui est l'élément premier, essentiel du couple. Ça, je crois que l'évolution même au plan politique de la famille met en lumière ce point de vue-là. Alors, ceux qui le font, c'est bien comprendre qu'en faisant ça, la famille se purifie dans ce qu'elle a d'essentiel, mais elle s'affaiblit aussi politiquement. Politiquement, elle est beaucoup plus fragile. Et cette fragilité politique va s'intensifier par les lois politiques qui ne respectent plus la famille, alors que l'État devrait respecter la famille. Ça, nous y reviendrons là-dessus. Je crois qu'un État qui ne respecte plus la famille, comme l'État français d'aujourd'hui, c'est un État qui se suicide. C'est un État qui se suicide. C'est qu'au fond, progressivement, un pays n'existe plus politiquement s'il ne respecte pas la famille. Ça, c'est une excellente conférence au point de vue politique. Et ce qu'il y a de bon, c'est que c'est vrai. Donc c'est pas de la rhétorique, c'est philosophiquement parfaitement vrai. Et on en verra les conséquences, et on les voit déjà maintenant. Donc il faut bien comprendre, c'est ça le point de vue délicat, point de vue philosophie politique, c'est que se dépouiller du point de vue politique, du point de vue économique, donc la relation maître et esclave, allait purifie, montre la famille dans ce qu'elle a d'essentiel, mais en même temps affaiblit, du moins affaiblit, fragilise, c'est plus juste, rend plus vulnérable, et par le fait même, très facilement, la politique, l'aspect communauté politique, ne respectera plus la famille. Puisque l'aspect politique respecte la puissance économique. Si la famille ne représente plus rien du tout au point de vue puissance économique, la famille n'est plus respectée. Et ce qui est respecté par l'État, en premier lieu, c'est la puissance économique en dehors de la famille. Ça, c'est un fait, hein. Essayer de comprendre dans quelle mesure c'est légitime au point de vue économique. Je le prends ici comme un fait. Et on arrivera à faire des lois politiques qui, non seulement ne favorisent pas la famille, mais même favorisent l'état de concubinage. Puisque vivre ensemble sans être marié, plus facile, politiquement parlant, que de vivre étant unis, au point de vue famille. C'est plus économique. Les impôts sont tels, c'est là où on voit que le côté injuste, il faut appeler les choses par leur nom, c'est illégal, au point de vue humain. Parce qu'un État qui ne favorise pas la famille est nécessairement contraire à l'homme. Ce n'est plus humain. Or, on le fait parce que le point de vue politique ne voit plus que le point de vue économique et ne voit plus le point de vue humain. Et à ce moment-là, l'État, par ses lois, va déstabiliser la famille. autre chose et la purification, autre chose déstabilisée. Déstabiliser la famille, ce n'est plus favoriser le couple dans son alliance. Donc, premier élément, celui-là. Deuxième élément, c'est pour essayer de comprendre la famille d'en être au point de vue d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Donc, je dirais purification. Ce serait la première chose que je voudrais dire. Premièrement, purification. On va essayer hein, de mettre les éléments. Premièrement, purification. Purification qui met en pleine lumière l'amour d'amitié. Nous y reviendrons, hein. Parce que toute la philosophie du mariage va de la famille, va reposer sur l'amour d'amitié de l'époux et de l'épouse. Et cette purification est nette parce que l'alliance du maître et de l'esclave est mise entre parenthèses. Elle ne fait plus partie de la famille. Donc, il y a une purification qui met en lumière l'amour d'amitié de l'époux et de l'épouse. Cette purification est bonne en soi. Elle est quelque chose qui est grand. Et c'est pour ça qu'il y aura la répercussion au point de vue théologique. La théologie de saint Thomas sur la famille et la théologie du pape sur la famille substantiellement est la même, mais elle implique une purification dans la théologie actuelle de l'Église. Je ne peux plus prendre directement ce que dit saint Thomas. Je suis obligé de faire attention. Et ceci relève de cette purification de fait. C'est tout à fait normal, puisque la théologie de la famille présuppose nécessairement une théologie de la communauté et une théologie politique. Et ça change. Vous voyez, la morale fondamentalement demeure la même, mais la morale subit des modifications. La morale de saint Thomas me donne les principes, mais les applications, je ne peux pas. Il faut bien que je les comprenne. Dans ce sens-là, que la théologie morale est quelque chose. Ce problème-là ne se pose pas pour le dogme. La très sainte Trinité, telle que saint Thomas l'a dit, est la même du temps de saint Thomas pour moi. Ça n'a pas changé du tout. Pas du tout changé. Non mutor. Tandis que la famille ne peut pas dire « non mutor hein. ». Je ne change pas, c'est faux. La famille depuis Hésiode, hein. Platon, Aristote, saint Thomas, et aujourd'hui, des modifications et purifications. Je mets en pleine lumière l'élément premier et essentiel de la famille. Par le point de vue de l'amour d'amitié de l'époux et de l'épouse. L'alliance de l'époux et de l'épouse. Bon, deuxièmement, cette purification fait que la famille perd, je dirais, de son efficacité, peut-être. C'est l'efficacité qu'il faudrait dire. Elle perd de sa force, son pouvoir.
La
l'association et par rapport tout simplement à l'individu. Alors voyez donc, ce pouvoir économique étant diminué, ce pouvoir économique n'est plus aidé par l'État, il est diminué. Ça, je crois que c'est très important. Il y a une espèce de blessure de la famille. Elle est blessée. Elle n'est pas seulement purifiée, mais elle est blessée. Elle est, la stabilité de la famille est en état d'alerte au point de vue politique. Je prends en France. Hein. C'est pas général, mais en France. Il y aurait d'autres aspects politiques à voir dans d'autres pays avec le marxisme. Parce qu'on retrouverait la même. Dans le marxisme, c'est tout à fait différent. C'est par rapport à l'éducation. Vous voyez ? Mais c'est encore une. On mettra après ça. Troisièmement, les sciences biologiques. Les sciences biologiques dans leur application immédiate, comme on disait tout à l'heure, sans passer par la prudence, sans passer par la prudence médicale du médecin. Les médecins doivent défendre la famille. Ça fait partie de la défense de la vie. Un médecin intelligent comme médecin doit défendre la famille, puisque l'État ne défend plus. Qu'est-ce qui défend ensuite la famille? C'est le médecin. Je crois que ça fait partie du serment d'Hippocrate. Alors ça, ce serait intéressant à étudier. Hein. Ça, je demanderai au médecin d'étudier ça. Comment le serment d'Hippocrate doit défendre la famille? Parce que la famille est source de vie. Naturellement, elle est source de vie. Si elle est source de vie, l'art médical et le médecin doivent défendre cette source. La source étant toujours le point de départ. Or, les sciences biologiques, comme sciences biologiques, ne défendent pas la famille. Au contraire, les sciences biologiques tendent à montrer qu'on n'a plus besoin de la famille. Et donc là, seconde fragilisation de la famille, seconde déstabilisation de la famille, politiquement et biologiquement. Et il est évident que les sciences biologiques vont porter un coup très dur à la famille. L'aspect politique, l'aspect sciences biologiques. Vous pouvez avoir des enfants en dehors du mariage. Biologiquement, c'est très facile. Ça peut se faire. Et les médecins vont favoriser ça. En faisant ça, est-ce que le médecin est encore médecin? Est-ce qu'il n'est pas tout simplement l'instrument des sciences biologiques? Et je crois ça très important à comprendre. Parce que c'est un fait qu'on assiste aujourd'hui. Alors il faut saisir à quel moment il y a quelque chose qui n'est pas juste. On voit bien dans les conséquences, mais il faut saisir à quel moment c'est pas juste. Le médecin comme médecin n'est pas l'instrument du biologiste. Il est l'homme prudent au service de l'homme et de la vie. Et donc au service de ce qu'il y a de loi naturelle. Je crois que c'est avant tout ce point de vue-là, les sciences biologiques. Je crois que les deux facteurs, l'aspect politique et l'aspect sciences biologiques, qui viennent mettre la famille dans un état de fragilisation, qui déstabilise la famille, et qui fait dire, alors c'est là la conclusion sur laquelle nous allons revenir, qui fait dire que la famille n'est plus une communauté naturelle. Que c'est conventionnel. Alors, troisièmement, la conclusion. Quatrièmement, la conclusion. La famille n'est plus la communauté naturelle, comme on le disait avant. Elle est conventionnelle. conventionnel. Communauté conventionnelle qui dépend de traditions. Donc, favorisons deux choses. Le plus qu'on peut. Favorisons deux choses pour revenir à des choses qui sont la libération de la famille. On est en face de la libération de la famille. Favorisons l'individu qui veut avoir une famille, qui veut avoir des enfants sans la famille. On va favoriser ça. Et on va favoriser l'union libre. C'est une autre façon. On favorise, soi-disant, l'amour d'amitié dans toute sa liberté. Donc c'est la liberté d'union libre. Et puis favorisons la mère, la célibataire, qui veut être mère et qui veut avoir sa famille, indépendamment du mariage. Je crois que c'est les deux grands problèmes d'aujourd'hui qui montrent que la communauté familiale n'est plus une communauté naturelle. Parce que c'est ça l'attaque. On est donc en face de cela. Alors, portons un jugement de philosophie politique en face de ça. Autant qu'on peut en porter un. Devant ces différents problèmes. Si vous en voyez d'autres, notez-les, hein, parce que on travaille ensemble sur ce problème-là. Étant donné qu'il faut se faire une philosophie de la famille qui soit une philosophie de la famille en préparation de la fin du deuxième siècle après Jésus-Christ et en préparation du troisième millénaire. N'est-ce pas ? Du deuxième millénaire après Jésus-Christ et du troisième millénaire. Pour parler comme le Saint-Père. Alors, essayons de comprendre. Premièrement, j'accepte, et je crois que philosophiquement parlant, il faut accepter cette purification. C'est un fait. Et c'est vrai, c'est une purification. Et je crois que philosophiquement parlant, il faut comprendre que la famille repose et se fonde sur l'amour d'amitié. Ce ne sont pas les familles qui se marient. Ce sont des individus et des personnes. L'Église a soutenu ça depuis déjà longtemps, puisque déjà au Concile de Trente, c'était dit. Donc l'Église était en avance comparativement à l'aspect politique. Ça, il faut le reconnaître. De temps en temps, on dit que l'Église est toujours en retard. Quand il s'agit de l'amour, l'Église est toujours en avance. Et l'Église est gardienne de l'amour. Et l'Église sait mieux ce que c'est que l'amour que la politique. Ça, c'est sûr. Donc, il faut, là, non pas du tout, je ne fais pas le plaidoyer de l'Église en philosophie, mais un petit nota bene. On reconnaît ça. Puisqu'au Concile de Trente, vous savez bien, il y a eu cette discussion très intéressante entre les théologiens français gallicans et les théologiens espagnols liés à saint Thomas. Les théologiens espagnols liés à saint Thomas ont dit que le consentement des parents n'était pas une question de validité du mariage. Alors que les gallicans, les théologiens français gallicans, ont dit que le consentement des parents était nécessaire pour la validité du mariage. Vous voyez, le gallicanisme joue de droite ou de gauche. Parce que le gallicanisme d'aujourd'hui des théologiens n'est pas tout à fait le même que celui du Concile de Trente. C'est très curieux. Et la crête, c'est toujours Thomas d'Aquin. C'était très étonnant, ça. Et c'est intéressant, du reste, parce qu'il faut de temps en temps mettre les gens au point. Oui. Parce que c'est intéressant de voir que le gallicanisme est aussi bien de droite ou de gauche. Il y a un gallicanisme conservateur, et le gallicanisme d'aujourd'hui est beaucoup plus conservateur qu'on ne pense. La suprême injure, quand ils veulent être progressistes. vous êtes des conservateurs. Mais vous ne savez pas ce que c'est que d'être conservateur. Et enfin, vous n'êtes pas du tout progressif. Vous êtes des conservateurs. Ça, c'est la suprême injure. Alors, il faut comprendre que, de fait, l'amour d'amitié fonde le point de vue du mariage et fonde la famille. La famille est fondée sur l'amour d'amitié. Ça, je crois que c'est capital, point de vue philosophique de la famille. De montrer que la famille ne peut exister que dans cet amour d'amitié de l'époux et de l'épouse. Que cet amour d'amitié de l'époux et de l'épouse est, comme tout amour d'amitié, un choix personnel et réciproque. Donc toute l'éthique de l'amour d'amitié qu'il faut reprendre et qu'on doit reprendre par rapport à ce que représente cette communauté humaine première, avec la différence, c'est que cet amour d'amitié va impliquer le don des corps en vue de la fécondité. De la fécondité au niveau biologique. Alors, précisons que l'amour d'amitié a en lui-même une fécondité immanente au niveau des amis. C'est très important, ça. Vous voyez, il y a une fécondité spirituelle à l'intérieur même de l'amour d'amitié. Ça est fou. Bien comprendre ça. Tout amour est fécond. Pourquoi ? Parce qu'il permet à l'époux, à l'ami, d'être parfaitement lui-même. On ne peut être parfaitement soi-même que dans un climat de confiance totale. Dans l'amour d'amitié, on aime l'autre pour lui. Mais en aimant l'autre pour lui, comme l'autre nous aime, et qui nous aime pour nous-mêmes, grâce à cette réciprocité, il y a la découverte d'un épanouissement personnel qui est vrai à tout amour d'amitié. C'est en ce sens-là que tout amour d'amitié finalise et permet une certaine fécondité, c'est-à-dire un épanouissement de la personne. L'amour d'amitié épanouit l'ami. Et c'est cette fécondité immanente à l'amour d'amitié. Donc il y a une fécondité immanente à l'amour d'amitié qui est le fait que dans l'amour d'amitié, on a une totale confiance l'un pour l'autre. Et cette totale confiance l'un pour l'autre épanouit l'ami. Quand on n'est pas dans un climat de confiance totale, on ne peut pas s'épanouir. Il y a quelque chose qui ne se fait pas. Tandis qu'au contraire, l'amour d'amitié permet cela. Et permet donc une fécondité spirituelle. En plus de cette fécondité spirituelle, il y a la fécondité selon la chair et le sang. Au niveau des dons des corps, dans l'union sexuelle de l'époux et de l'époux, c'est-à-dire dans ce don réciproque qui à la fois manifeste l'amour spirituel, prolonge l'amour spirituel et permet à l'amour spirituel en s'incarnant de devenir source de vie. Il y a un fruit qui n'est plus immanent alors à cet amour d'amitié, qui est extrinsèque à cet amour d'amitié. C'est là où on voit que l'amour d'amitié entre l'époux et l'épouse a quelque chose de substantiel grâce au don des corps. Que l'amour d'amitié postule, parce que aimer un ami spirituellement, sensiblement, implique toujours quelque chose de substantiel. Même en dehors du mariage, il y a toujours quelque chose. quelque chose de substantiel dans tout amour d'amitié, puisque c'est une personne qu'on aime, c'est l'ami. Ce n'est pas l'amour de l'ami que j'aime, mais c'est l'ami que j'aime. Donc il y a quelque chose de substantiel dans tout amour d'amitié. C'est pour ça qu'il y a cette fécondité spirituelle. Mais dans l'amour d'amitié, où il y a le don des corps, et où il y a, par le fait même, ce fruit possible, cette fécondité biologique possible, ce fruit qu'est l'enfant, est extrinsèque à l'amour d'amitié. Il est quelque chose qui permet le rayonnement de cet amour d'amitié, qui glorifie cet amour d'amitié. L'enfant glorifie l'amour de l'époux et de l'épouse. C'est à la fois un résultat et une fin. Il finalise et il a un résultat. La fidélité propre de l'amour d'amitié est immanente à l'amour d'amitié. Mais la fidélité biologique de l'amour d'amitié au point de vue humain est une fidélité qui implique un résultat, un fruit, un effet, l'enfant. Cet amour d'amitié qui se prolonge dans l'enfant va donc être ce qui donne la structure profonde du mariage, du foyer, de la famille. Une famille prend et tire toute sa force, toute sa valeur de l'amour des conjoints. C'est l'amour des conjoints, de l'époux et de l'épouse qui structure la famille. Et qui permet à la famille d'atteindre sa finalité propre et extrinsèque. Les deux finalités. Une finalité immanente et une finalité extrinsèque. Il faut toujours bien distinguer ces deux finalités. Voyez, alors, précisons, cet amour d'amitié, comme tout amour d'amitié, finalise. L'homme est finalisé par son ami. Donc c'est une finalité qui est propre à l'homme, pas une finalité dernière. C'est une finalité intermédiaire, comme on dira, et c'est une vraie finalité. C'est une finalité particulière. Et cette finalité a ceci de particulier et de propre, c'est qu'elle s'étend dans l'enfant. Donc elle acquiert par l'enfant une stabilité plus profonde. Elle est déjà stable par elle-même, puisque aimer une personne, c'est l'aimer durant toute sa vie. C'est le propre de l'amour d'amitié. On aime une personne, et donc on aime une âme spirituelle. On aime au-delà de la mort. Dans toute amitié, on dira ça. Je t'aime au-delà de la mort. Autrement, ce n'est pas une véritable amour d'amitié. Parce qu'on aime son âme, on aime la personne qui implique l'âme. Donc, il y a déjà cette stabilité. Tout amour d'amitié réclame la fidélité et réclame la stabilité. Mais ici, la fidélité et la stabilité prennent un caractère nouveau à cause de l'enfant. Résultat de l'amour, fruit de l'amour. Et comme l'enfant naît dans un état de fragilité et de faiblesse, il est remis aux parents et les parents doivent l'éduquer. Première éducation, deuxième éducation, troisième éducation. Les trois cycles de l'éducation, n'est-ce pas ? Alors les parents doivent l'éduquer. C'est là qu'on voit comment la famille implique une nouvelle fidélité et une nouvelle stabilité à cause du fruit de l'enfant. Et ça, c'est un fait indubitable qu'une famille qui n'a pas d'enfants n'a pas la même stabilité qu'une famille où il y a des enfants et dans laquelle il y a plusieurs enfants. Il y a des stabilités beaucoup plus profondes. Chaque enfant apporte une nouvelle exigence de stabilité et de fidélité. Ça, quand les enfants sont nombreux, c'est beaucoup plus difficile. difficile de divorcer. Les familles nombreuses, il n'y avait pas de divorce. Tandis que les familles dans lesquelles il n'y a pas d'enfants, c'est beaucoup plus fragile. Surtout quand il n'y a pas d'enfants à cause de la stérilité. Bon, je crois que ça, c'est capital de comprendre ça. Mais vous comprenez qu'à cause de l'enfant, il faut nécessairement que le problème économique intervienne. Quand on est seul, on se débrouille. Quand on est deux, c'est déjà plus difficile. Et quand on est trois, c'est souverainement difficile. Donc, il y a là une exigence nouvelle qui est économique. Et on dépend nécessairement du milieu dans lequel on est. C'est là qu'on voit que la famille ne peut pas avoir une stabilité absolue si elle n'est pas soutenue par d'autres familles et si elle n'est pas soutenue par l'État. L'amour d'amitié est au-delà du conditionnement de l'État. On peut s'aimer d'un amour d'amitié dans n'importe quelle sorte de gouvernement. Tandis qu'on ne peut pas élever une famille dans n'importe quelle sorte de gouvernement. Vous voyez, par l'enfant, l'élément de l'économie et l'élément donc de la dépendance à l'égard du milieu dans lequel on se trouve va s'accentuer énormément. Et c'est là où on voit la responsabilité des autres familles et surtout la responsabilité de l'État. Un individu ou des amis qui ne sont pas des amis dans le foyer, c'est-à-dire l'époux et l'épouse, arrivent à se débrouiller et s'aimer indépendamment du milieu politique. Tandis qu'au contraire, lorsqu'il s'agit de la famille, alors là, il y a une dépendance. À cause de l'éducation de l'enfant et à cause de la fragilité de l'enfant. Donc vous voyez que tout de suite, nous voyons qu'intervient essentiellement, au-delà de l'amour d'amitié, l'aspect économique. Qui est second, c'est bien évident, mais qui est essentiel. Et l'aspect économique fait la dépendance au point de vue politique. C'est là où on peut dire que la famille est en fondement de la communauté politique. Quand la communauté politique ne favorise pas la famille par rapport aux enfants, pas par rapport à l'amour d'amitié des conjoints, mais par rapport aux enfants, la communauté politique commet une injustice. Elle est inhumaine. Et on n'a pas le droit de l'accepter. L'accepter, c'est une complicité. Donc on n'a pas le droit de l'accepter. On doit être dans un état de celui qui s'oppose. Qui s'oppose avec intelligence, qui ne s'oppose pas nécessairement violemment. Mais qui s'oppose. Et qui sait qu'il doit tout faire pour retrouver un équilibre qui soit juste. Vous voyez, il y a une espèce d'acquiescement, quelquefois, au niveau politique, en disant, moi, je ne fais pas de politique, alors j'accepte, qui est une injustice, et qui est donc une faiblesse. On n'a pas le droit, quand on est marié, d'être complètement en dehors du point de vue politique. On n'a pas le droit. Parce qu'on est fondement de la communauté politique. Donc on n'a pas le droit de dire « Oh, ça m'est égal, moi je me débrouille très bien, indépendamment de ça. » Oui, mais les autres, qui sont plus fragiles, on est responsable des autres. Et la vie religieuse nous met en dehors du point de vue politique, on le sait. Alors c'est différent. délibérément, mais l'homme célibataire qui est dans le monde n'a pas le droit d'être indifférent de la politique. L'homme est naturellement un animal politique. Vous ne pouvez vous séparer du point de vue politique que pour un motif religieux. Et même, je dirais, un motif chrétien. Parce qu'on est tous solidaires les uns des autres, au niveau économique. Et comme la famille a une redondance économique, je n'ai pas le droit de m'en séparer. Autrement, je serai complice. Il faut le dire, ça. C'est l'aspect de la justice, si vous voulez. Il y a une justice sociale, il y a une justice humaine, tout simplement, qui fait que l'homme n'a pas le droit de se couper de l'aspect politique en dehors de la contemplation et de la vie religieuse, au point de vue chrétien. Je crois que ça, vous êtes farouche là-dessus. Il faut le faire de façon astucieuse, c'est évident. Mais il faut rappeler ça. Donc, je vois là comment la famille doit lutter contre des lois économiques iniques. Deuxièmement, par rapport au troisième point, qui est le point de vue le plus délicat, parce que jusque-là, je crois qu'on est tous d'accord, c'est facile à comprendre. Mais c'est très important, hein. C'est pas parce qu'on est tous d'accord que c'est pas important. C'est très important que la famille doit comprendre qu'elle est engagée au plan politique. Le point de vue troisième est beaucoup plus délicat. C'est le point de vue de la famille qui doit comprendre le caractère naturel de la procréation. Et là, on touche ici tout de suite. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure au point de vue du cours de théologie naturelle. On rejoint tout de suite des problèmes extrêmement difficiles. Et il faut bien dire extrêmement difficiles, qui sont les problèmes actuels. Alors, il faut au moins comprendre que c'est des problèmes difficiles pour ne pas les résoudre trop rapidement. Et on voit la sagesse de l'Église. L'Église se tait. Certains voudraient que l'Église parle tout de suite. Je connais des médecins, pas d'ici donc ça. Je connais des médecins qui déjà depuis un certain nombre d'années me supplient, en disant, puisque vous voyez ça perd, dites-lui qu'il faut à tout prix qu'il tranche ses problèmes. Et m'ont demandé de leur communiquer au pape des dossiers. Très bien, très bien. On voit la sagesse de l'Église qui se tait. Mais il y aura forcément un moment où l'Église sera obligée de parler. Ça peut pas être autrement. Alors, on doit nous-mêmes préparer en cherchant la vérité, dans la mesure où on est capable, pour nous préparer et préparer ceux qui sont proches de nous. Et c'est important parce que c'est la question, voyez, du caractère naturel de la famille. La procréation et l'activité, l'opération vitale la plus naturelle et la plus humaine. Et on peut même dire, au plan proprement philosophique, dans une vision de sagesse, qu'elle est sacrée. Et ça, c'est très important. Qu'il y a quelque chose de sacré, puisqu'il y a une coopération avec Dieu. Alors je crois qu'il faut regarder ces trois plans, naturels, humains, sacrés. Et c'est par là que je comprends et que je peux défendre la famille. Autrement, je ne la défends pas. Je me laisse influencer par la biologie et les idéologies attachées à la biologie, qui font qu'à ce moment-là, je n'ai plus qu'une perspective scientifique sur le mariage. Et n'ayant plus qu'une perspective scientifique sur le mariage, je ne vois plus le caractère naturel, humain, sacré. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.